J'étais touché la semaine dernière, vous savez, Vito a partagé ce thème de l'Église. Rappelez-vous, on avait médité sur un verset, et le verset de Éphésiens 5, 25, car Christ, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Et nous avions passé vraiment un temps de méditation, ensuite de partage sur l'Église, ça a été riche. On voit qu'il y a une sensibilité collective, l'esprit dans chacun de nous a résonné différemment. Et puis je donne juste quelques rappels, et puis il nous disait, voilà, qu'est-ce que l'Église est dans cette période en fait que l'on vit, tous ensemble, que ce soit au niveau international aussi, au niveau Église Josué, au niveau peut-être individuel. Mais je pense qu'il est primordial de revenir à trois fondamentaux, et le premier c'est qui est Dieu. Le deuxième, c'est qui nous sommes en lui. Et le troisième, c'est qui nous sommes de façon collective. Et ça me paraît... Donc, c'est pas étonnant que l'Esprit de Dieu nous pousse à rechercher ces choses-là, à les recevoir de lui, parce que c'est ça qui donne la force et la stabilité. Donc, qui est Dieu, qui nous sommes en lui personnellement, et qui nous sommes en tant que corps, en tant qu'Église. Il avait rappelé qu'est-ce que l'Église, qu'elle est née de Dieu. Ça, c'est quelque chose, une révélation formidable. Elle est née de Dieu. C'est pas une idée des hommes. Tiens, on va se réunir, c'est plus sympa, on est des êtres sociaux, on a besoin de partager. Non, non, c'est une initiative de Dieu. L'Église a été voulue et elle est la manifestation de sa volonté sur la terre quand elle se rassemble. Donc quand nous nous rassemblons, réfléchissons un peu, c'est sa volonté que son Église se rassemble, qu'elle loue ensemble son nom. C'est quand même, c'est pas rien, c'est pas anecdotique, c'est vraiment quelque chose de précieux. Et puis sa valeur. Cette valeur de son Église, au sens général, mais aussi au sens local du terme, c'est que il s'est livré pour elle. Donc ça montre toute la valeur qu'elle a à ses yeux. Donc ça, il nous avait invité, il nous a plein de versets, il avait, rappelez-toi Vito, il avait donné les lettres, toutes les épîtres qui sont adressées aux églises. Donc la parole de Dieu, elle est là parce que une grande portion de cette parole est adressée aux églises, justement. Et puis, l'Église, épouse de Christ, c'est sa priorité. Personne n'a haï sa propre chair, il en prend soin. Et puis, il avait montré aussi, on n'est pas là juste pour se réunir, mais pour montrer l'infini, les richesses et la grâce et la bonté de Dieu. Et ça, c'est dans Éphésiens 2.6. Et puis, en terminant, voilà, l'Église n'est pas définie par ce qu'elle fait, ses échecs ou ses réussites, c'est Dieu qui l'a créée. Donc voilà, en gros, hein, je veux pas, voilà, mais j'ai été touché, je suis sorti de ce message non seulement enrichi par la méditation personnelle et partagé collectivement, qui a été un moment riche, du coup on s'approprie, on se rappelle du coup, parce qu'on s'est investi. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui va nous préparer aujourd'hui? Mais ça m'a touché, je suis sorti avec l'image qui est dans ce verset de Jean, chapitre 19. J'aimerais qu'on prenne ensemble Jean chapitre 19, verset 31 à 37. Nous avons dans cette écriture la naissance de l'Église. Donc, Jean 19. Dans la crainte que les cornes... Il s'agit de la crucifixion de Jésus. Là, il est mort. Et dans la crainte que les cornes ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour du sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés, qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui, s'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et ça, mes amis, c'est la naissance de l'Église. Alors j'explique un peu, mais c'est très clair au niveau des Écritures, et ça fait référence en particulier à Genèse 2, c'est le deuxième texte qu'on prend ce matin, cet après-midi, Genèse 2, versets 18 à 23. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait à l'homme. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle était prise de l'homme. Donc ça, le parallèle entre ces deux textes nous montre que Ève, non seulement c'est, bien sûr, Adam et Ève, c'est l'image du couple, on utilise ce texte dans les mariages en particulier, mais Ève est une figure, une préfiguration de l'Église. Elle est une préfiguration de l'Église. Ève. Donc elle est sortie du côté. Le terme exact c'est côté, c'est pas côte, c'est le côté d'Adam. Donc elle est née d'Adam. De la même façon, cette eau et ce sang qui est sorti, ça a donné naissance à l'Église. Le sang c'est quoi? C'est le sang du rachat, hein, qui fait qu'on peut être une nouvelle créature, libérée, pardonnée, guérie. C'est le sang de Jésus. Et le sang, donc, nous parle du rachat. Et donc, l'Église est faite d'hommes et de femmes qui ont été rachetés par le sang. Mais le sang, c'est une des choses. L'autre aspect, c'est l'eau. Et l'eau, c'est quoi? Eh bien, l'eau, ça nous parle de la vie. Et la vie, c'est aussi la parole. Et donc, Dieu, il a posé le fondement pour que sa vie, qui se crée un peuple nouveau, racheté par le sang, et qui reçoit la vie du Seigneur, et ça, ça donne l'Église. Donc, Genèse 2, Adam, Ève, ça préfigure la naissance de l'Église. Donc, Ève est issue d'Adam, comme l'Église est née du côté percé de Jésus. Donc, c'est là encore qu'on voit que c'est l'Église, c'est pas seulement le rassemblement des gens qui croient au Seigneur. Vous savez, parfois on dit c'est quoi l'Église? Ben, c'est le rassemblement des chrétiens. C'est loin d'être seulement ça. Loin d'être seulement ça. C'est ça aussi, mais quelque part, c'est ce peuple issu de Jésus lui-même. C'est-à-dire, cette eau et ce sang constituent, eh bien, ce qu'est l'Église. C'est intéressant de voir aussi, dans une naissance naturelle, un enfant inné, il y a du sang et de l'eau. On le voit dans le naturel. Et dans le spirituel, c'est pareil. Il y a du sang et il y a de l'eau. Et donc, voilà, donc l'Église, elle n'est pas faite d'argile. Adam, il a été fait avec la poussière, mais l'Église, elle n'a pas été faite avec la poussière. Il n'y a rien d'argile. Il n'y a rien de terrestre. Elle a été tirée du côté de Jésus. Et donc, on voit que on pourrait dire, ben l'Église c'est le rassemblement, c'est Monsieur Dupont avec Madame Durand, avec Monsieur Rindel. Ben c'est pas ça l'Église. C'est ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc vous voyez, c'est pas un rassemblement d'individus, c'est une réalité spirituelle qui est née de Dieu lui-même et qui est une expression de Jésus. Tiré de Jésus, du côté de Jésus, du côté percé de Jésus. C'est ça l'Église. C'est beaucoup plus que tout ce qu'on peut parfois imaginer. Et donc l'Église, elle provient du Christ. Comme Ève, elle provient d'Adam, eh bien l'Église, on dit, c'est le corps de Christ. Elle provient du corps de Christ. Donc seul ce qui est issu du Christ est l'Église, si vous voulez. Alors, Ève, elle est née du sommeil d'Adam. Il est dit que Adam était en sommeil. Une opération anesthésie générale, le sommeil, et on trafique là, et on prend le côté, et ça donne Ève. Mais l'Église est née du sommeil de Jésus aussi, c'est pareil. Il était endormi, il était en sommeil, ressuscité, pas encore ressuscité, mort, mais, l'Église est née de là. Et donc, voyez, il faut qu'il y ait effusion de sang, il faut qu'il y ait écoulement d'eau, qui est la vie, pour qu'il y ait l'Église. Et vous remarquez une chose, c'est que Ève, cette femme, comme beaucoup de femmes dans les Écritures d'ailleurs, préfigure l'Église. Ève, rappelez-vous, Dieu n'a pas dit, tiens, je vais faire Adam, et Adam, il va dire, tiens, ben, je vais lui donner le commandement de dominer sur la terre, de cultiver le jardin et tout ça. Non, non, non. Il a attendu que Ève soit créée du côté d'Adam. Et quand Dieu a eu en face de lui Adam et Ève, c'est-à-dire une famille, un couple, symbole, préfiguration du Christ et de l'Église, c'est seulement là qu'il donne le commandement de dominer sur la création et de cultiver le jardin, qui est la terre, et de le garder. Donc intéressant, l'autorité, elle est donnée pas seulement à Adam, mais elle est donnée à Adam et Ève. Il a fallu attendre Ève. Et de la même façon, on va voir que le mandat qui était donné à Adam et Ève, il est donné au Christ et à l'Église. Pas à l'Église toute seule, pas au Christ tout seul, mais Christ et l'Église. C'est quand même intéressant de voir que Christ, il aurait pu très bien accomplir ce mandat. Enfin, le premier Adam, il a loupé, il a échoué. Et bien, le Christ, nouvel Adam, il va tout faire. Ben non! Le Christ, nouvel Adam, est mort du côté percé, est né l'Église, et avec l'Église, il y a ce mandat de domination, et de domination, de responsabilisation de l'homme. Donc Genèse 1, Dieu l'homme, créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu, il créa homme et femme, Dieu les bénit, leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc en fait, si vous voulez, Dieu suscite, il cherche un peuple qui soit victorieux. Comme le Christ est victorieux, on le dit, on le chante, mais il attend à ce que son Église, son Ève, son nouvelle Ève, son Église, soit aussi victorieuse. Et donc, la domination, dans les Écritures, on voit dans le livre de la Genèse, vous avez le serpent, tous ces animaux rampants, il est dit de dominer sur eux. Mais c'est intéressant de voir dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 10, il est dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc on voit ici que ce mandat de marcher, d'écraser les serpents, les scorpions, il s'agit d'un mandat de guerre et d'autorité spirituelle sur ces choses-là. Il ne s'agit pas seulement, Ève, ah ça y est, elle a son Adam, elle est contente, elle est heureuse. Enfin, j'ai mon bel homme, et Adam, il a sa belle femme, la Ève, oh, de ses os, chair de sa chair, et tout va bien, et on roucoule, et rou, 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 vous voyez. Mais c'est pas ça. Il y a un mandat qui est donné, et le mandat, il est violent. Le mandat, il est, tu vas écraser la puissance d'ennemi. Et Jésus revient là-dessus, il reprend ce passage. Et en Matthieu 16, lorsqu'il dit « Moi, tu es Pierre », il dit à Pierre, « Et sur cette révélation que tu as eue de qui j'étais, eh bien, je bâtis mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc, si vous voulez, qui sommes-nous? Nous sommes l'Église du Seigneur. Et par rapport à cette naissance, et par rapport à ce mandat, il est bien évident que, de temps en temps, eh bien, il y a des batailles. Et toute opposition, tout vent contraire, n'est pas fait pour nous écraser, mais pour exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. Il utilise les vents contraires pour cela. Et en tant que corps, on a affaire parfois à cela. Et donc, vous voyez, c'est pas seulement une histoire du... L'Église n'est pas seulement là pour sauver des âmes. Elle est là également pour écraser la domination de l'ennemi, l'usurpateur. Et il y a une confrontation spirituelle qui est là, qui est forte et qui est sérieuse. Et donc, nous sommes, moi je me rappelle, avant la conversion, j'étais le pacifiste, Baba Cool, Peace and Love, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et je m'attendais à ce que le christianisme soit une affaire comme ça, on se fait des bisous, on se tape sur l'épaule, et on s'aime, et puis c'est merveilleux, j'ai découvert l'amour de Dieu. Et c'est vrai. Mais tout d'un coup, j'ai découvert immédiatement après la guerre, j'ai découvert la notion que les esprits mauvais, ça existe. Et ça a été quelques semaines après la conversion, j'ai eu affaire directement. Donc j'ai vu que c'était pas le monde des bisounours. J'ai vu qu'il fallait se battre, que c'était la guerre. au début de l'école, c'était pareil, c'est un truc de dingue. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'avais pas dit ça. Dans le package de la conversion, tu m'avais pas dit qu'il fallait se battre. Sinon, peut-être, j'aurais choisi autre chose, tu vois. Mais là, franchement, et plus j'avance, plus je dis, mais l'Église, l'image d'Ève, et c'était bien avant le péché, tout ça, la domination, hein, tu domineras, c'est bien avant le péché. Donc, Jésus revient avec, en suscitant, il est venu, le Fils est venu, le Père l'a envoyé pour susciter l'Église, pour susciter celle qui sera son épouse. Alors, voyez, j'aimerais souligner plusieurs choses qui m'ont touché. Moi, toute la semaine, ça m'a travaillé, cette histoire. Je me suis dit, Seigneur, ça m'a vraiment travaillé. Et ce mandat que Dieu nous donne, eh bien, il nous l'a donné à chacun de nous ici. Et nous savons de Romains 8, hein, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Semblable à l'image de Jésus, c'est quoi? Mais Jésus, c'est pas seulement l'agneau. Jésus, c'est aussi le lion. Et donc, être semblable à l'image de son Fils, c'est être semblable à ces deux aspects. À ces deux aspects. Et en tant qu'Église, il y a ces deux aspects. Il y a la douceur, la tendresse, la miséricorde. Et dans l'esprit, dans la prière, il y a la guerre, la proclamation et le combat. Et donc voilà, ça c'est la réalité de ce que nous sommes appelés à vivre et de ce que nous vivons. Et j'aimerais faire un survol intéressant de... Ça m'a touché, je me suis dit, mais si Ève est une première préfiguration dès le livre de la Genèse, de qu'est-ce que l'Église ? Je me suis dit, il doit y en avoir d'autres. Bien sûr, il y en a plein dans les Écritures, il y en a plein dans l'Ancien Testament. Mais en particulier, quelques femmes dans l'Ancien Testament préfigurent l'Église. Et j'aimerais qu'en tant qu'Église Josué, on regarde un petit peu... On ouvre quelques portes, quelques fenêtres sur quelques-unes de ces femmes pour se dire où j'en suis moi en tant qu'Église Josué, en tant que membre, par rapport à cette image de l'Église qui m'est donnée. Et la première image, c'est dans Genèse, on reste dans Genèse, mais c'est bien sûr le mariage de Rebecca avec Isaac. Et là, nous avons une préfiguration aussi extraordinaire de l'Église. Juste, nous sommes au chapitre 24 de la Genèse, mais juste avant, au chapitre 22, rappelez-vous, Isaac, qu'est-ce qui se passe? Sacrifice d'Isaac. Abraham qui l'amène pour le sacrifier. Au dernier moment, Dieu pourvoit. Il voulait voir jusqu'où allait Abraham. Et donc, quelque part, Isaac a été offert. Deux chapitres après, il reçoit son épouse. Jésus a été offert en sacrifice. Juste après, la naissance de son épouse, l'Église. Donc, au chapitre 24, on voit toute l'activité, c'est un récit fantastique que je vous inviterai à relire, d'Abraham pour chercher une épouse pour son fils. Et alors, c'est l'image, eh bien, de l'activité divine pour l'épouse, pour préparer l'épouse, pour la chercher. Voilà. Et donc, Rebecca, elle est préparée, mais le serviteur d'Abraham s'est dit, mais comment je vais pouvoir la reconnaître, cette jeune fille? Comment je vais pouvoir savoir que c'est celle qui est préparée pour mon maître? Et alors, il dit dans Genèse 24, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que tu boives, que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Intéressant, vous savez, les chameaux, ça, c'était pour boire, ça met du temps, hein. C'est impressionnant, moi j'ai vu ça aussi, mais c'est des heures, elle a passé des heures. Elle aurait pu dire seulement donner à boire à Isaac, mais non, elle a dit je vais donner aussi boire à tes chameaux. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit un cœur de serviteur, tout simplement. Et donc, l'aspect de l'Église, c'est le cœur de serviteur qui caractérise l'Église. C'est ça qui la caractérise, servir. Et on voit donc Genèse 24 plus loin, le serviteur courut au devant d'elle et elle dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Il dit, elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser la cruche de sa main et de lui donner à boire. Quand elle lui achevait de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour les chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits pour puiser. Elle puisa dans tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement, sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Et quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle, de bracelets, et il va lui mettre. Et il a discerné l'épouse. La caractéristique de l'épouse, c'est quelle? De l'épouse du Seigneur, de l'Église du Seigneur. C'est la caractéristique de l'esprit du service. C'est la première caractéristique. Nous sommes appelés à servir. Alors, servir Dieu, bien sûr, en premier. Quand nous l'avons loué tout à l'heure, on sert Dieu. C'est quand même pas rien, la louange. C'est pas des chants. C'est pas des chants. C'est servir Dieu. C'est pas rien. C'est, en tant que sacrificateur, on offre un service à Dieu. C'est quelque chose drôlement important. C'est pas une anecdote. C'est pas un passe-temps. C'est un service pour Dieu. Une offrande pour Dieu. Ensuite, c'est servir les saints. La Bible est très, très claire. Servez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. C'est le service des autres. Et le service du monde. Au service du monde. Donc, l'Église est au service. Et c'est étonnant parce que cette domination que Dieu demande à Ève, à Adam et Ève, de dominer le monde, c'est en servant. C'est en servant avec les dons que nous avons. C'est en servant en aimant, c'est en servant... Voilà. Donc, il y a une différence quand on prend Ève et Rebecca. Alors, Ève, si vous voulez, c'est un acte souverain de Dieu. Elle est créée sans qu'elle intervienne, en fait, en quoi que ce soit. Mais par contre, Rebecca... Il a fallu une réponse de sa part. Une réponse intelligente, je trouve. Une réponse de foi, sous l'action de l'esprit, bien sûr. Et donc, on voit que le serviteur, quand il découvre la future épouse, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait plein de cadeaux. Il fait des cadeaux, non seulement à l'épouse, mais à la famille. Et le serviteur, il a dit, sorti des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements. Ça nous parle. L'argent, c'est le rachat. L'or, c'est... Dieu veut donner de l'or. D'ailleurs, l'Église est appelée, si vous voulez, à être ce chandelier d'or. Et l'or, il est fondu. Et c'est normal que ça fonde pour faire de l'or épuré. Et puis ensuite, des vêtements, vêtements de justice, vêtements de louange. Bref, tout ça nous parle bien avant que l'Église soit née de l'Église. Et alors, on voit que, eh bien, ensuite, elle est amenée, elle suit bien sûr le serviteur. Et Isaac était dans les champs là, et puis tout d'un coup il voit ce convoi là de cette caravane de chameaux, et puis il voit sa Rebecca, et ils vont être unis. Et donc dans cette histoire, si vous voulez, on voit un aspect de l'Église et le travail du Saint-Esprit. Le serviteur, c'est le Saint-Esprit qui va chercher l'Église, qui va la parer, qui va la préparer. Et ensuite, tous les trésors qui sont donnés. Voilà, une belle histoire. Il y a une autre femme moins connue, c'est Asnath. Ça vous dit quelque chose, Asnath? C'est un nom qu'on a perdu aujourd'hui. On n'a pas de fille qu'on appelle Asnath. Dans les milieux chrétiens, j'ai jamais trouvé ça d'ailleurs. Eh bien forcément, Asnath, c'est la fille de Potiphéra, prêtre d'On, qui va être la femme de Joseph. Donc, elle est tirée d'un milieu occulte comme jamais il y en a, enfin c'est vraiment très occulte, hein, dit de la divination, l'idolâtrie là-dedans, et elle est tirée de là pour devenir l'épouse et donc la mère de futures tribus d'Israël. C'est quand même un truc de dingue, ça. Et ça préfigure, eh bien, que le Seigneur, il a préparé, il a créé son épouse, il a suscité son épouse, qui vient des nations, qui vient de nulle part, qui vient de là où on ne le connaissait pas, où on ne le cherchait même pas. Et ça parle de cette provenance, de la plupart d'entre nous aussi. Hein. Voilà, donc Asnath, et qui a été choisie. Et le mariage d'Asnath avec Joseph, elle va donner naissance à des fils. Et c'est l'Église choisie du monde, mise à part pour Dieu. Voilà. Et puis, il y a une autre femme étonnante, c'est Séphora. Alors, on a connu une Séphora dans l'Église. D'ailleurs, elle va bien. Mais Séphora, donc c'est Moïse qui l'a rencontrée dans le désert. Et Séphora, elle va être la femme de Moïse dans toute cette période du désert. Donc, c'est l'image de l'épouse de Christ dans les déserts. C'est-à-dire, il y a une promesse, mais on n'y est pas. On n'y est pas. Et donc, voilà, on pense qu'à partir du chapitre 18 de l'Exode, quand Moïse est revenu, elle l'a accompagné. En tout cas, c'est la tradition juive qui nous dit ça. Et on ne peut pas s'empêcher de penser au texte du prophète Osée, qui nous dit, c'est pourquoi, chapitre 2, « Je veux l'attirer et la conduire au désert. » Il parle d'Israël. Mais je pense que ça parle aussi de l'Église, parfois. je l'ai conduite au désert et je parlerai à son cœur. Et là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Et elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Et en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Est-ce que les déserts, ça serait des lieux où on rencontre Dieu comme époux, comme mari, dans l'intimité? Eh bien, très probablement, oui. Regardez l'apôtre Paul. Il se convertit, rencontre Jésus. Où il va? Dans le désert. Et là, il a passé des années dans le désert. Et dans ces années, il a reçu des révélations de qu'est-ce que l'Église, justement. Tout ce qu'on a sur l'Église, 1 Corinthiens 12, les membres, le corps de Christ, tout ça, il a reçu. Où ça? Dans le désert. Là où il n'y avait rien. Il n'a même pas reçu de quelqu'un d'autre. Il a reçu de Dieu directement. Et ça a donné des épîtres. Donc je pense qu'il y a des déserts nécessaires. Et Dieu veut parler à nos cœurs. Et se faire connaître aussi comme Marie. Une autre femme qui me parle pour une image de l'Église, c'est Aksa, la fille de Caleb. Aksa. Et après son mariage, elle râle un peu, elle dit « Écoute, tu m'as donné une terre du Midi, ça veut dire tu m'as donné un désert. Maintenant, donne-moi aussi les sources d'en haut, hein, les sources. » Et puis alors, il est dit que Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Donc, si vous voulez, imaginez-vous, cette femme, elle reçoit comme cadeau une partie de désert, quoi, je veux dire. Elle pourrait râler, mais c'est quoi ce truc, quoi? C'était pas un bon deal de me marier avec Othniel, je reçois un désert. C'est quoi la promesse? C'est quoi ce Dieu-là? Mais elle se plaint pas, elle réclame. Elle dit, maintenant, j'ai reçu un désert, c'est très bien, mais maintenant je veux les sources. Vous voyez? Donc, une église qui demande, une église qui met en plein désert, elle demande des sources. Et puis elles lui sont données. Et même, il est dit dans le psaume, même si on traverse les vallées de Baca, on les transforme en source d'eau. Et donc ça, il y a ces promesses de Dieu qui sont extraordinaires. Et moi je vois toutes ces... C'est des facettes de l'Église, toutes ces images, toutes ces femmes. Et vous avez aussi Ruth, bien sûr, dans le livre de Ruth, avec Boaz et Ruth, qui était comme nous, c'est-à-dire, ça nous parle de Dieu qui a choisi au milieu des nations, même pas le peuple choisi, au milieu des nations, il a choisi Ruth, qui va devenir... une ancêtre de Jésus quand même. Mais il a fallu, et là je fais rappel au message de Werner il y a 2 semaines, c'était quel sujet d'ailleurs le message de Werner il y a 2 semaines, ceux qui étaient là? Le choix. Et Ruth qui dit, qui choisit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, je largue tout et je te suis. Le choix. Et ce choix, ça l'a fait rentrer dans l'héritage. Et donc, ça nous parle aussi de... C'est de l'Église qui s'attache au Christ. Et c'était des temps de famine. C'était des temps pas faciles. Et elle s'est accrochée et elle est rentrée dans son héritage. Elle a connu Boaz pendant les moissons. Et elle a été rachetée par Boaz, bien sûr. Ça nous parle de cette Église que Dieu va racheter par son sang précieux. Lorsqu'elle dit donc où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, etc. Eh bien, ça nous parle vraiment de l'Église avec le Christ, hein, qui marche, qui est un chemin. Je rappelle que Jésus, c'est un chemin, c'est pas une chaise. Si Jésus était une chaise, on le saurait. Mais si vous voulez, tu le découvres dans un point, et puis hop, il est déjà plus loin, quoi. Et donc, en fait, il y a une marche. Eh bien, l'Église qui marche, c'est l'église de Séphora, c'est l'église aussi d'une autre femme, 1 Samuel 15, c'est Abigail, la femme de David. Ça c'est, je trouve, une belle image de l'église. Alors, juste David, on sait, hein, c'était loin de l'Éternel, le vainqueur de Goliath, belle figure du Christ d'ailleurs, hein, qui a vaincu, voilà. Mais alors ce David, ouin, ben, il a commencé à mener une vie errante. Il était pourchassé par Saül. C'était difficile de voir loin de Dieu, là. Mais il est où le David qui a vaincu les Goliaths, là? Il est où? Il est en train d'être dans le désert. On a l'impression qu'il est paumé. Il n'y a plus personne, plus grand monde qui le suit. Il est pourchassé, il est rejeté, il est méprisé. C'est ça, loin de Dieu? Et les amis, ça rentre pas dans le programme, dans mes cases de ce que j'ai de la grandeur de Dieu. Et là, après la mort de Samuel, le prophète, peut-être par crainte de Saül, David va descendre dans un désert qui était au sud de la tribu de Juda, le désert de Paran. Et dans ce désert, il y avait un homme assez riche qui avait des moutons, il s'appelait Nabal. Et donc David envoie des hommes vers lui à Carmel avec un message de paix. « Vis longtemps, paix sur toi !» et sur tout ce qui t'appartient. Et il s'est occupé des brebis de cet homme, comme si c'était les siennes. Voilà. Et puis, quelques temps après, David, il était entouré de quelques jeunes qui ont tout lâché pour être avec lui, parce qu'ils ont dit, si on est en lui, le roi, loin de Dieu. Mais ils avaient des besoins pour manger, quoi. Ils n'avaient plus rien à manger. Et donc, il a une délégation qui est allée chez ce Nabal, qui lui dit, mais écoute, nous sommes venus dans un bon jour, donne à tes serviteurs ce que ta main pourra trouver pour nous nourrir. Et ce Nabal, il a dit, mais qui es-tu, toi? T'es qui, toi? Faut que je te donne, casse-toi. Et puis alors, les serviteurs se sont retrouvés, penauds, ils sont venus chez David, et alors là, David, là, il s'est mis en colère. Il a dit, je vais tous les massacrer. Tous les massacrés. Et la femme de ce gars, Nabal, hein, la femme Abigail, elle a senti que ça chauffait, quoi. Et, mais elle n'a pas senti que ça chauffait. Elle a senti que David, c'était le choisi de Dieu. C'était loin de Dieu. Donc, elle se précipite vers lui. Et puis, elle va s'humilier, elle va demander pardon pour son mari. Il est dit qu'elle est humble et sage. Elle a discerné dans David, celui qui est choisi de Dieu. Et puis, elle se prosterne devant David. Elle attend la grâce. Voilà la prière qu'elle fait. Écoutez ça. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David, se prosterna contre terre. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Déjà, elle prophétise. Il fera à mon Seigneur. Elle appelle mon Seigneur. C'est un rejeté, c'est un paria. À mon Seigneur, une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Elle a vu que David soutenait les guerres de l'Éternel. Et en fait, elle dit, s'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans les faisceaux des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Donc, lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de terre servante. Et elle a évité le carnage. Elle a évité. Et vous voyez, ça demandait de l'humilité, mais ça demandait sûrement du discernement. Et elle a discerné David. Et c'est la même chose, si vous voulez. Le Christ, aujourd'hui, parfois tu dis, t'es chrétien, ça peut être sujet de moquerie. Ça peut être sujet, mais c'est quoi ce Christ? Qu'est-ce qu'il fait pour toi? T'es qui, toi? Tu vois ce truc-là. Et puis, Abigail, elle l'a discerné loin de Dieu. Et elle a toute sa vie ensuite, elle a donc lâché le confort, elle vivait richement quand même. C'était un homme riche, ce Nabal. Il est mort. Et donc elle a épousé David, et en fait elle l'a vécu auprès de lui dans les périodes de rejet et de guerre. Il fallait se battre, et ça a été la vie d'Abigail. Donc une vie, en fait, c'est une image, si vous voulez, Abigail, de cette église qui se bat dans le désert jusqu'à ce que le règne soit établi. Ça nous parle aujourd'hui. Ça nous parle aujourd'hui. Et bien sûr, vous avez l'autre femme, Esther, alors on la connaît bien, cette image de l'Église qui gouverne avec le Christ, et pourtant elle a commencé très mal, orpheline, sans rien, d'un peuple voué à la destruction. Mais elle était adoptée, éduquée, préparée, elle accède au trône, et là encore une fois, reine, elle risque sa vie pour demander le salut du peuple. Ça nous parle de la gouvernance. Et la gouvernance, voyez, c'est pas protéger sa vie. Gouverner, selon Dieu, c'est perdre sa vie. C'est assez étonnant, les paradoxes dans les Écritures. L'autorité, c'est quoi? C'est servir. Ah ben mince, alors je pensais pas, voyez. Et puis gouverner, c'est quoi? Eh ben, c'est être prêt à donner sa vie. L'autorité, elle vient de là. Et je me rappelle, cette semaine, j'ai lu un journaliste, le témoignage d'un journaliste russe opposant à Poutine et qui dénonce quoi la guerre et puis qui est en prison quoi. Et puis au travers de ses avocats, il a pu être questionné. Et il a dit mais on lui a dit mais comment vous faites pour avoir ce courage quand même et tout perdre quoi. Il a dit mais écoutez, le jour où j'ai abandonné mes ambitions personnelles, mon confort, eh ben j'ai plus peur de rien. Et plus rien me fait peur. Et donc je m'oppose et je me lève pour la justice. Mais il a fallu qu'il vive ce combat d'être, est-ce que tu es prêt à donner ta vie, quoi. Et ensuite, tu n'as plus de peur, affranchi de toute peur. Donc ça, c'est dans le naturel. Je ne sais pas si c'est un chrétien, cet homme, mais moi, ça me parle. La grande autorité qu'il a, c'est une telle autorité qu'elle fait peur aux plus grandes autorités. Ce genre de journaliste-là fait peur. Il faut l'enfermer, il faut le faire taire, parce que rien ne l'arrête, quoi. Et ça, c'est, ça parle vraiment du caractère. Donc, vous voyez, Abigail, Esther, la plus grande autorité, et Esther, ça nous montre aussi que la plus grande autorité que Dieu donne à l'Église, il donne l'autorité pour gouverner sur les nations, etc., pour dominer, ça va en même temps avec la plus grande des soumissions. Et Esther, même reine, reste soumise à Mardoché, une figure de l'esprit, Mardoché. Une figure de l'esprit, voilà, soumise à Mardoché malgré toute l'autorité qu'elle a. Et puis la femme du Cantique des Cantiques, et je termine bientôt, mais cette femme du Cantique des Cantiques, bien évidemment, c'est une figure de l'Église. Et si on voulait retenir quelque chose, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est déjà l'abandon, je suis à lui, il est à moi. L'abandon, hein, total, j'ai plus rien à moi, mais tout ce qu'il a est à moi aussi. Hein. Et puis aussi, j'aimerais souligner parmi beaucoup de choses, mais l'autorité. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Et en fait, elle est tout le Cantique des Cantiques, il s'agit d'une amoureuse, mais c'est une amoureuse qui est guerrière. Et c'est ce que Fabienne Ponce souvent dit dans le milieu des RNC, on parle souvent de ces guerriers amoureux. Mais c'est vraiment ça. L'Église, c'est cette guerrière amoureuse. C'est cette femme du Cantique des Cantiques. Et puis, si on va un peu plus loin, on a dans le livre des Proverbes, vous savez, la femme des Proverbes 31, là. Il y en a qui disent, mais est-ce que vraiment c'est possible qu'il y ait une telle femme? Alors, elle s'occupe de la maison, tout ça. Alors, chacun y met ce qu'il veut bien, y trouver. Mais quand même, il s'agit ici d'une image de la vocation de l'Église. Bien sûr, bien sûr. Alors bien sûr, c'est aussi la femme du foyer, d'ailleurs, qui ne s'occupe pas que du foyer, entre parenthèses. Je veux dire, elle achète des champs, elle fait du business, quoi. Et puis, elle est dit, toute sa maison est revêtue de cramoisi, ça nous parle du sang de Jésus sur sa maison. Elle a des vêtements de fin lin. Les fin lin, c'est quoi? C'est des œuvres des saints, nous dit l'Apocalypse. C'est pas rien. Et de pourpre, ça parle du rachat par le sang. Elle est revêtue, regardez ça, de force et de gloire. Je veux dire, si c'est pas l'appel de l'Église, elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Une Église qui rit, elle se rit de l'avenir. Vous vous rendez compte? Ça, c'est les tripes de l'Église du Seigneur. Elle se rit de l'avenir. Dieu se rit de ses ennemis. L'Église se rit de l'avenir. C'est une partie du corps de Christ, ça. C'est quand même étonnant. Et elle craint l'Éternel aussi, bien sûr. Et quand vous avez l'Église primitive, qui grandit avec force, miracle, il y a un refrain qui revient sans cesse. Et ils étaient dans la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel. Et vous avez les prodiges, les miracles, etc. Donc on retrouve dans cette première église les caractéristiques, bien des caractéristiques de ces différentes femmes que nous avons vues et parcourues ensemble, symboles de l'église. Alors en conclusion, si vous voulez, j'aimerais qu'on puisse un peu réagir, 5 minutes, mais rappelons-nous que qui est Dieu, qui nous sommes individuellement, bien sûr, mais qui nous sommes en tant qu'Église. Reconnaissons la valeur de l'Église, et son origine, son appel, sa destination. Et c'est quand même un honneur que Dieu nous donne. Parfois, on dit, mais je sais pas, moi, on pourrait oublier l'honneur que c'est de servir et d'être membre de l'Église de Christ. Et Dieu veut nous rappeler l'honneur qui est fait de faire partie de son corps et de son épouse. Voyez. Donc, reconnaissons le corps de Christ aussi et notre place dans le corps. Et que ça veut dire que chacun d'entre nous ici, si on t'enlève, ça fait mal, ça fait un trou, c'est pas possible. Il y a vraiment la reconnaissance de cette place, de ce membre de corps, et bien ça donne aussi de l'assurance dans l'identité collective. On est tous ici des membres de ce corps, un rôle à jouer. Alors, l'Église, c'est pas seulement quand on se réunit, mais l'Église, c'est quand tu es à ton travail, quand tu es dans ta mission, quand tu es à l'école. Et c'est ça, le corps de Christ en mouvement. Quand il y a des gens qui disent, mais c'est quoi mon rôle dans l'Église? Alors tu vois tout de suite le temps du dimanche, mais c'est pas ça. Le rôle dans l'Église, c'est le rôle dans la semaine aussi. Donc voilà, ça c'est important. Et puis rappelons ce mandat que Dieu a donné. Discernons l'héritage, donne-moi les sources. Hein, discernons l'héritage que Dieu nous a donné, nous demande de demander aussi. Et puis, donc Éphésiens 5, c'est ce qu'on a médité la semaine dernière. Dieu s'est livré pour l'Église, il en prend soin. Vous avez vu que c'est suivi par quel chapitre, Éphésiens 5? Question. Éphésiens 6. Et Éphésiens 6, c'est quoi? C'est la guerre. C'est les armes. Voilà. Il s'est livré pour elle, tatati, tatata, il l'aime, il en prend soin. Hein. Éphésiens 6, allez, maintenant tu revais les armes, guerre. Tu vas dire, mince alors, c'était, je ne savais pas. Tu sais. Mais oui, maintenant tu sais que Éphésiens 6, ça suit Éphésiens 5. Voilà. Et que le mandat de domination, eh bien, il est donné une fois qu'Ève, elle est là. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour résister aux mauvais jours. Tenir ferme. En fait, tenir ferme, c'est tenir dans les héritages que Dieu nous a donnés. Donc, la terre appartient à Dieu, bien sûr, mais il a confié la gestion au Fils de l'homme. Et donc, il distribue des héritages. Donc, nous n'avons pas, si vous voulez, à faire des conquêtes. Dieu a conquis, il a vaincu. Mais Dieu nous dit, tu dois tenir ferme dans les héritages que je t'ai donnés. Et donc, pour ça, merci Seigneur pour les intercesseurs au milieu de nous. Merci pour les guerriers au milieu de nous, parce que franchement, ça fait partie de l'appel de l'Église. Et puis, dernier point, acceptons parfois les périodes de désert et sachons les traverser en nous rappelant des Séphora, des Abigail, en nous rappelant ces images de l'Église qui doivent nourrir notre vocation aujourd'hui de chrétiens du 21e siècle dans l'Église d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais juste qu'on puisse avoir peut-être 5 minutes. J'ai parlé de quelques femmes comme ça dans les Écritures. Et peut-être il y a une pensée, un éclairage, quelque chose qui vous interpelle. Et j'aimerais qu'on ait un petit nombre, on est en famille. Donc, prenons le temps de, pendant 5 minutes, qu'il y ait du retour et qu'il y ait de l'échange par rapport à cette parole. Et on voit d'ailleurs l'équilibre entre elle s'occupe du foyer, il y a beaucoup de versets là-dessus, elle prend soin du foyer, et en même temps elle investit dans la société. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est intéressant, c'est les deux. Et je crois que ça c'est vraiment important. Autre remarque ou retour ou pensée, c'est ça. C'est vraiment l'image de l'héritage, AXA. L'Église qui a un héritage, qui est consciente de l'héritage et qui le demande. Avec les yeux naturels, c'est ça. Elle voit avec les yeux de l'esprit. Et puis, ce regard, c'est aussi le regard les uns sur les autres. Parce que dans la famille de Dieu, si vous voulez, la capacité de discerner le Christ chez chacun. Et ça, c'est l'Église aussi. C'est ce regard sur l'autre. Hein. Et on a dit que l'Église est issue du Christ. C'est-à-dire qu'il y a cette vie et cette eau que Dieu a répandue, qui est en chacun. Alors parfois, il y a ces sources parfois qui peuvent être bouchées, mais justement, quand on dit « donne-moi les sources d'en bas », ben ça peut être les sources. Le cœur est une source, je rappelle. Gardez votre cœur plus que toute chose, parce que les sources de la vie coule de ton cœur. Donc il y a des sources bouchées. Et notre prière, c'est peut-être pour notre frère, notre sœur, de dire, Seigneur, il y a une source là qui est belle, que je vois. Mais je te la demande. Je vois un tel potentiel là. Seigneur, je te prie pour cette source. Et pareil, quand on prie pour une communauté aussi, c'est pareil. On veut la voir avec les yeux de Jésus. Ça me rappelle l'apôtre Paul, au début, qui persécutait l'Église, et puis il y a une lumière sur son cheval, et il tombe, et il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Mais Seigneur, mais j'ai rien fait, moi, je sais même pas ce que c'est, l'Église. Ah, mais si tu me persécutes, là, parce que c'est moi, l'Église. Ouf, t'es qui? T'es Jésus, mais Jésus, il est mort, maintenant, il est ressuscité, mais il est là, ben oui, ben c'est mon corps. C'est quand même... Donc, c'est inversement, donc, on est appelé à nourrir, prendre soin aussi. La portion du Christ en nous, c'est quoi le mystère de Christ? C'est nourrir et prendre soin de l'Église. Eh bien, la portion du Christ en nous aime aussi prendre soin. Et quand je pense, quand on accueille une maisonnée dans nos maisons, quand on encourage quelqu'un, quand on va visiter quelqu'un, on prend soin comme... C'est la main de Jésus, c'est le cœur de Jésus. Voilà, d'autres choses, d'autres remarques, d'autres retours? Oui. Oui, César, ouais. Elle le loue, elle le met en valeur, ouais. Et lui, il la loue aussi. En tout cas, une invitation à relire Proverbe 31 avec cette optique-là, avec cette optique-là. Mais c'est vrai, c'est comme un refrain, ces femmes stériles qui sont justement celles qui sont appelées. Et c'est quand même étonnant, ça revient régulièrement. Et comme tu as raison, c'est pas dans le naturel. Ok. Voilà, on veut simplement prier et bien Seigneur, merci pour ta parole, pour qui est un pain, et tu nous rappelles non seulement qui tu es bon Seigneur, tu es fidèle, tu es grand, on l'a chanté Seigneur, tu es précieux, et en même temps Seigneur, qui nous sommes en toi, fils et filles de Dieu, héritiers pour l'éternité Seigneur, merci, héritiers de la terre et du ciel, et en même temps Seigneur, en tant que membre de ton Église, Seigneur. Et nous nous abreuvons de ta vérité, de ce que ta parole dit, que nous sommes ensemble. Alors merci, Seigneur. Nous appelons ta bénédiction sur tous les membres qui sont pas là, qui sont en vacances, qui sont de ci, de là. Et nous prions que l'appel que tu nous as donné d'être une famille qui célèbre ta présence, qui manifeste ton amour, qui incarne ton royaume, puisse être... Nous inspirer, nous motiver et nous nourrir, Seigneur, jusqu'à l'accomplissement de toutes les promesses que tu nous as faites en tant que corps. Merci, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Au nom de Jésus. Amen.